France Musique.
Le magazine de la contemporaine. La place centrale du compositeur dans le paysage de la musique contemporaine occulte parfois l'importance des différents rouages de ce qui constitue une sorte de petit écosystème où se croisent les interprètes, les organisateurs, les producteurs, les diffuseurs. Et la question est encore plus aiguë lorsque les compositeurs ont disparu et que leur notoriété ne permet pas à ce système de s'auto-réguler, comme c'est le cas par exemple avec l'œuvre de Messiaen ou celle de Dutilleux. Il faut donc saluer l'engagement d'interprètes comme le pianiste Stephen Clark ou encore le Jack Quartet qui perpétue la mémoire et le corpus du compositeur d'origine roumaine Horacio Radulescu, bien oublié aujourd'hui alors qu'il séjourna très longtemps en France jusqu'à sa disparition en 2008. Chaînon manquant entre le pionnier Chelsea et la génération des spectros comme Griset, Muraille ou Dufour, Radulescu souffre désormais d'un cruel manque d'exposition que vient heureusement compenser ce disque paru sous un label phonographique américain, le label Mode, lequel défend sans œillère une certaine idée plutôt exigeante de la création musicale. Voici le troisième mouvement de la deuxième sonate pour piano de Radulescu par le pianiste Stephen Clark. Le troisième mouvement de la deuxième sonate pour piano de Radulescu par le pianiste Stephen Clark, cela vient de paraître chez Mode, label new-yorkais très actif en matière de musique d'aujourd'hui. Sur le même disque figurent également la cinquième sonate et puis le cinquième quatuor à cordes, interprété par le Jack Quartet. C'est l'heure du reportage. Cette semaine, Pierre Rigaudière a rencontré le compositeur David Udry. C'était au moment de la création d'une nouvelle pièce pour ensemble de Forgotten City à la Philharmonie avec l'ensemble intercontemporain sous la direction de Gregor Meyerhofer que Pierre Rigaudière a également rencontré.
C'est à l'occasion de certains voyages que j'ai fait à Buffalo, aux États-Unis, que m'est venue cette idée, parce que dans cette ville, j'ai eu l'occasion de faire face à des lieux désaffectés, des usines qui m'ont particulièrement marqué.
David Udry.
Le fait de me retrouver face à ces monuments désertés, inhabités, provoquait chez moi un sentiment étrange. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ces lieux-là et à vouloir les connaître un peu mieux. Donc du coup, Buffalo, ça a été un peu l'étincelle qui a fait démarrer cette fascination pour les lieux industriels, pour les villes en déshérence. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner énormément sur la question, à écouter pas mal de choses au niveau du son industriel, à regarder des images, à me laisser porter par toutes ces visions, aussi bien sous forme de photos que l'exploration des sons que j'ai pu faire. Et petit à petit, c'est devenu une évidence pour moi qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Et c'est là qu'est commencé à naître l'idée de travailler sur l'univers industriel et de développer une musique qui parlerait de cet univers-là. Pour moi, l'occasion d'aller explorer un univers que j'avais un petit peu mis de côté dans mes précédentes pièces et dans mes travaux de ces dernières années, parce que j'avais d'autres préoccupations, notamment le travail approfondi sur tout ce qui est de l'ordre de l'harmonie, de la ligne mélodique. Là, je me suis dit que la dimension rythmique était quelque chose que j'avais un tout petit peu banalisé dans mes pièces précédentes et que je souhaitais mettre en avant particulièrement. Alors, tout en poursuivant ce travail que j'avais déjà engagé, notamment cette inspiration avec la peinture de gestes, de formes, de morphologie un peu générale, j'ai voulu déployer au maximum ces recherches-là. Recherche sur la couleur, recherche sur les formes, sur les énergies, sur les projections de gestes, et en même temps sur cette capacité à pouvoir subdiviser les rythmes et obtenir des polyrythmies. L'univers industriel se prêtait particulièrement à ce jeu de polyrythmie et de travail sur les différentes masses et matières sonores.
Très bien, très bien. Peut-on faire 243. Les triples le plus lourd possible. Pour le triolet. 243. 3 et...
Je pense que dans toutes les sections groove, j'essaye de absolument concentrer sur la précision rythmique.
Gregor Meyerhofer.
Parce que je pense que c'est ça qui donne l'énergie et qui fait cette atmosphère très particulière que j'aime beaucoup entre, oui, cette esthétique de trash, un peu comme Stomp, qui utilise toutes les sons qu'on peut trouver dans la vie quotidienne, mais mis dans un cadre rythmique qui fait de ce bruit, qui normalement sont que des bruits, oui, un rapport musical de ça. Alors, pour toutes ces parties, la précision rythmique, pour moi, c'est probablement ce plus important. Puis, pour toutes les parties qui sont plus longues, plus libres, je pense, là, c'est plutôt la balance, qu'il faut bien profiter des timbres très, très exceptionnels et jolis que David a trouvé là. Et comme il est un orchestrateur fantastique, comment il a combiné ces timbres différents, combinés dans une manière très spéciale pour créer des sons que moi, j'ai jamais avant entendus.
Pour moi, avoir un bloc de marbre et simplement gratter la surface pour garder l'impression que le bloc de marbre garde sa consistance ne m'intéresse absolument pas. L'autre fois, je discutais avec une de mes étudiantes et je lui donnais l'image de la statue du Bernin de Daphnis et Apollon où on a cette grande forme extrêmement claire de l'élévation des deux personnages qui et de Daphnis qui est en train d'être figé, qui se transforme en arbre avec Apollon qui la poursuit, et en même temps la multitude de détails qui viennent ornementer cette forme générale et qui donne la beauté à la et la vie, l'énergie, la dynamique, la vie intérieure de ce morceau de marbre, de ce bloc de marbre. Et j'aime que la matière, même si on a une perception globale d'une matière, qu'elle soit très travaillée de l'intérieur et que les perspectives à l'intérieur de cette matière puissent changer. Et j'allais même dire que ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'à l'intérieur de ces changements, chaque fois qu'on réécoutera cette matière-là, on puisse aller y chercher des choses différentes. Écrire quelque chose qui doit sonner comme une masse assez puissante et en même temps travailler le détail nécessite un contrôle précis de la dynamique, et même malgré les lois de l'orchestration, il y a des choses qui, dans le contexte de l'ensemble et avec l'utilisation des sons et de la manière de les agencer, peuvent produire certaines surprises. Ça fait partie aussi de l'expérimentation et du travail sur lequel j'essaye de faire des recherches actuellement, c'est-à-dire de garder une écriture qui contrôle toujours les différents éléments de la polyphonie, mais que cette polyphonie ne soit pas simplement au service d'entendre plusieurs voix, mais de créer une matière sonore. La thématique de l'univers industriel invite à toucher le son avec quelque chose de beaucoup plus concret, quoi. Effectivement, j'en parle assez peu, tout comme mon passé d'accordéoniste d'ailleurs, mais j'ai eu la chance de pratiquer l'accordéon et puis la batterie, et je crois que dans cette pièce, c'était pas évident au début, mais après une première année de travail, d'esquisse, de recherche, et puis d'avoir laissé un petit peu les choses mûrir comme ça, je me suis rendu compte que je tournais autour du pot et que ce que je cherchais au bout du compte, c'était à avoir une batterie. Et quand cette chose-là a été non seulement une évidence, mais que j'ai décidé de l'assumer complètement, je me suis dit, il faut y aller et il faut assumer cette dimension-là, il faut aller jusqu'au bout du projet dans ce sens-là. Et du coup, effectivement, ça a donné aussi cette vigueur et cette énergie rythmique qui était au départ peut-être un peu plus mesurée. Là, j'y suis allé franchement. Le basson est un personnage qui a existé à travers d'autres pièces, et notamment une pièce qui s'appelait Impromptu pour un monodrame que j'avais écrite pour basson et électronique. Et je trouve que dans ce paysage industriel, on parlait de la ville oubliée. La ville oubliée, c'est justement ces promenades de ces personnages solitaires au milieu de ce monde abandonné, déserté. Et je trouve que rien ne pouvait mieux rendre ça que l'expression du lyrisme de ces personnages ou de ces éléments comme ce solo trompette à la fin qui sonne avec une nostalgie très forte et qui, du coup, nous ramène dans le ici et maintenant, c'est-à-dire un peu comme le ferait Schubert dans sa musique, à savoir que le ici et maintenant, c'est la tonalité mineure, c'est la situation en train de se produire, et que quand il évoque le passé, il y fait toujours référence en ayant recours aux tonalités majeures. Et pour moi, cette référence-là se fait par l'articulation des rythmes et la pulsation et toute l'énergie rythmique que je déploie dans ces sections-là. C'est c'était, je peux le dire, une grande chance de travailler avec Grégor, parce que justement, je pense qu'on a très vite trouvé une façon de fonctionner, de travailler, de se comprendre sur cette musique-là. Et les propositions qu'il y a eu dans son sens, dans le mien, on se sont nourris mutuellement et ont permis effectivement, dans un temps qui était relativement restreint, d'arriver à un résultat. Et quand je disais quelque chose, il savait, parfois il me disait même, j'avais compris avant même que je le lui signale.
Je pense que je ne peux pas éviter d'être compositeur en même temps quand je dirige. Et aussi, bien sûr, à un certain point, je ne veux pas. C'est, pour moi, quand je dirige une œuvre, c'est très important d'avoir un contact avec le compositeur et essayer de comprendre ce qu'il veut. Comme ça, j'étais très heureux d'être en contact avec David très tôt pour comprendre qu'est-ce qu'il cherche avec ce morceau. Parce que souvent, comme chef, on est aussi occupé avec organiser tout ça et faire tout au bon endroit qu'on oublie qu'est-ce qui est le but principal de ce morceau. Et là, bien sûr, je suis très intéressé toujours de la côté compositeur aussi. Qu'est-ce qu'il fait et pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, avec quels moyens il arrive à le faire. Et je comprends si bien ce feeling de compositeur qu'on veut absolument ça. Et on essaye de absolument gagner ça. Et comme chef, il faut toujours essayer de trouver un équilibre entre être précis et demander certaines choses et aussi d'estimer où il faut juste laisser espérer et faire confiance que ça va marcher à la fin.
Merci Pierre Rigaudia pour ce reportage qui a été mixé par Eric Boisset, réalisé par Barry Grou. La semaine prochaine, ce sera le dernier de la saison. Je rappelle que vous pouvez retrouver ces reportages sur le site francemusique.fr.
France Musique.
Bonsoir Marco Momi.
Bonsoir.
Vous êtes notre invité ce soir, en particulier pour un concert qui aura lieu lundi prochain. Alors je ne pourrai pas y aller puisque je serai ici même à l'antenne pour diffuser un autre concert. Mais c'est également dans le cadre du festival Manifeste dont on vient de parler puisqu'on vient de diffuser un autre concert. Ce sera le 27 juin à 20h30 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et c'est un concert qui s'intitule Nocturne et que vous partagez avec deux compositeurs qui sont vos aînés, Salvatore Chiarino et Maurice Ravel. Est-ce que cette généalogie des compositeurs, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Est-ce que c'est le directeur du festival? Ça a été un échange entre vous?
On a pensé un peu ensemble au programme, parce que c'est un programme qui est né en fait pour aussi rencontrer les exigences des interprètes, de la qualité des interprètes. C'est un programme qui vraiment est né. C'est un projet aussi, la pièce en Rise, qui sera créée pendant le concert, qui est né pour, en fait, me courser un peu de problèmes dans le sens de me faire travailler avec des interprètes qu'on pourrait dire de genre classique.
Alors, il y a le quatuor Zaïd et le pianiste Mariangela Vacatello, que vous connaissiez avant. C'est la première collaboration que vous avez avec ce pianiste et le quatuor.
Avec le quatuor, oui, mais avec Mariangela, en fait, on est des amis. On se connaît depuis longtemps, depuis 8-9 ans. Et oui, on a un peu cherché cette occasion parce qu'en plus, on est voisins, on habite dans la même ville. Et elle est une pianiste formidable, en fait, qui vient de concours internationaux. Et voilà.
Et vous habitez à Perugia, Pérouse, voilà, en Italie, au Nombril.
Exactement. Et donc, là, c'était l'occasion pour partager, disons, un parcours ensemble, pour grandir un peu ensemble.
Ce qui signifie quelque chose de très différent pour vous, de travailler avec des interprètes qui sont plus investis dans le champ du répertoire classique et qui ne font pas de la musique contemporaine tous les jours. C'est plus difficile ou c'est très intéressant aussi?
Ah, c'est très intéressant. C'est une chose que je recherche toujours, sincèrement. C'est une nécessité. Mais en fait, c'est très particulier parce que moi, je viens des études, d'études classiques. J'ai fait de, j'étudie du piano, de la direction d'orchestre. Et je suis arrivé à la composition un peu tard, disons. Et aussi bien Marie-Angela, par exemple, elle a étudié composition au Conservatoire de Milan. Mais c'était bizarre constater qu'en fait, parfois, le concept de genre musical classique et contemporain, il est constitué en fait plutôt de différences en termes de production, mais pas en fait d'intention. Et alors, depuis longtemps, en fait, on a. Disons, j'ai compris. Depuis longtemps, j'ai compris qu'il y a des différences surtout par rapport à. D'où on prend le valeur musicale qu'on cherche dans une partition. Parce que des fois, par exemple, pour le compositeur, on part d'une idée, on part d'un concept, je sais pas, on part d'un son, on va travailler avec un musicien et on découvre des sons, on part de la matière, disons. Et pour les interprètes classiques, c'est vrai qu'il y a un rapport avec la musique tout à fait différent, qu'il part à l'envers par un besoin de détachement. Et ils doivent prendre du recul, disons, parce qu'ils ont habitué à jouer de la musique qui l'a dépassé le niveau conceptuel, disons. Et alors, c'est une chose qu'on a cherché de réaliser ce projet parce que. Parce que sinon, bon, on a l'impression des fois de faire de la musique du genre et ça, c'est pas bien. Et dans mon cas et aussi pour elle.
Alors, si on parle de matériaux musicaux, on peut peut-être venir à la notion d'objets musicaux. Et vous avez notamment signé une petite série, un petit cycle d'œuvres qui s'intitule Iconica. Iconica, ça fait référence à l'image aussi.
Oui, ça fait référence à l'image, à une image en particulier, en fait, les images de icônes. Je me rappelle, c'est un cycle qui est né dans le 2006 et qui est terminé dans le 2010. Donc, il a pris 4 ans de ma vie. C'était plutôt, à l'époque, je me rappelle que je cherchais, en fait, de me détacher d'un. De l'objet en tant qu'objet créé. Objet qui vient par un parcours, disons, génératif, par l'idée des processus, l'idée de développement. Et alors, ce que je cherchais, c'était cette valeur de l'icône, ça veut dire de révélation, qui traverse le temps, disons, d'une vision. Et à ce moment-là, c'est oui, voilà, je me concentrais dans la recherche de cette... recherche, disons, un peu d'identité, mais une identité un peu anonyme aussi, comme dans le cas qui est souvent des icônes. Et donc une identité plutôt proche aux empreintes digitales, disons, que à la définition d'un style par rapport à la maîtrise de, approche plus ou moins formalisable, disons, de développement musical.
On écoute un extrait de la deuxième pièce de ce cycle, Iconica 2, pour ensemble.
Thank you.
Un extrait de Iconica 2, Iconica 2 pour ensemble de Marco Mommi. C'est l'ensemble Divertimento et c'est paru d'ailleurs sur un disque chez Stradivarius l'an dernier. Stradivarius, c'est un des labels Marco Mommi qui fait encore de la musique d'aujourd'hui, qui publie encore de la musique d'aujourd'hui en Italie, ce label Stradivarius.
Ah oui, absolument oui. Et en plus, ils sont en train de, disons, renouveler un peu le catalogue, disons, et ils ont commencé à prendre des contacts avec des compositeurs de ma génération, par exemple.
C'est déjà le deuxième disque que vous faites
voilà,
chez eux.
Voilà, c'est le deuxième disque monographique, oui.
C'est important pour vous d'avoir des disques qui fixent une étape de ce parcours, ou est-ce que vous êtes d'une génération pour qui le disque, c'est de l'histoire ancienne?
Donc dans mon cas, il y a deux éléments principalement, deux choses à dire peut-être. La première, c'est que oui, c'est très important parce que dans mon cas, disons, ma musique est, je trouve, particulièrement difficile en termes d'interprétation. Il y a une fragilité un peu cachée dans les partitions. Et donc, malheureusement, je ne suis pas un compositeur qui est capable de d'écrire des choses qui arrivent tout de suite dès la première répète. Donc il s'agit vraiment de la, disons, musique de chambre la plus dure, disons. Mm-hmm. Et donc avoir une sorte de benchmark, disons, une sorte de...
Ouais. Il faut du temps, il faut de la répétition, il faut un ensemble qui vous connaisse bien, qui vous pratique, et puis qui puisse laisser ça sur une... Laisser une trace sur un support comme le disque.
Pas nécessairement, évidemment. Quand il arrive, c'est on note la différence. Quand on peut travailler beaucoup avec un ensemble, et voilà, par exemple, je travaille avec un ensemble israélien depuis longtemps, un ensemble nickel, et depuis d'un moment, dès qu'on répète, vraiment, on est vraiment dans une situation de communication non verbale, disons, extrême, donc d'efficacité extrême. Mais c'est vrai que dans des contextes de production un peu fragile, disons, cette fragilité de mes pièces, ça risque d'être un peu dangereux, disons. Alors il faut c'est bien, disons, d'avoir de figer cette un niveau, disons, de qualité. En plus, mais tout simplement l'expérience de travailler pour faire des CD, c'était énormément important pour moi, pour disons grandir, si je peux utiliser cette mot en tant que compositeur, parce que j'ai énormément appris dans le phase de mixing, mastering, et voilà. C'est une... Bon, par exemple, j'enseigne composition et je cherche d'injecter des concepts de mastering au même temps de quand on parle d'orchestration, par exemple. C'est une chose que, c'est un sujet que je crois est très important pour avoir une idée du son, une connaissance, conscience plutôt, disons, du son, très important et nécessaire après pour créer des contextes dans les pièces qu'on va écrire.
On a entendu un extrait de Iconica 2. Alors, il y a une série, comme on le disait tout à l'heure, une sorte de cycle entre 2006 et 2010. Iconica 4, la quatrième pièce de ce cycle, elle fait intervenir l'électronique. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté avec l'électronique, ou est-ce que vous avez pris l'électronique comme un instrument à part entière?
Là, c'était... Bah, j'ai pas l'électronique comme un instrument, basiquement. C'est vrai que dans Iconica 4, j'ai fait... je me rappelle, c'était l'IRCAM. En fait, c'était à l'époque de l'IRCAM. J'ai fait un travail de formalisation sur ce que j'avais fait... j'avais écrit, par exemple, dans Iconica 2, qui m'avait pris beaucoup de temps. Et là, par exemple, c'était le moment pour moi de découvrir que moi, je suis plutôt loin de la formalisation en
oui,
soi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez formalisé quelque chose qui n'était pas formel, presque.
Exactement. Et là, j'ai découvert que le cycle était terminé, en fait. Parce que l'idée de reproduire quelque chose qui était formalisé, en fait, me perturbait un peu à l'époque. Et donc, c'était intéressant à l'époque de... travailler dans ces côtés un peu cachés de l'électronique, parce que on parle d'algorithme, par exemple. Et après, de découvrir comment, en termes de proximité, j'avais besoin d'être en contact avec un certain type de formalisation.
Voilà. On écoute un extrait de Iconica 4, Iconica 4 pour Ensemble, cette fois-ci avec Electronique. Ce sont toujours les musiciens du Divertimento Ensemble. Un extrait de Iconica 4 pour Ensemble, le Divertimento Ensemble est dirigé par Sandro Gorli. Est-ce que c'est d'ailleurs une pièce dirigée ou pas celle-là ? Ils sont combien ? 6 musiciens ?
Ils sont 6 musiciens avec Clic.
Oui, donc il n'y a pas forcément.
Il n'y a pas forcément un chef. Ouais. Voilà, un chef, ça dépend des musiciens de l'ensemble.
C'est un extrait du même disque paru chez Stradivarius l'an dernier, Marco Mommi. Alors, c'était un petit peu la fin d'une histoire que cette Iconica numéro 4. Et après, vous êtes passé à autre chose. Vous avez eu la sensation d'arriver à la fin d'une proposition qui se refermait. Et vous avez eu besoin de vous renouveler pour ne pas vous imiter vous-même.
Oui, exactement, c'était franchement ça. Et, mais en plus, c'est bizarre parce que dans Zikronika, en fait, il y a des repropositions des parties de pièces dans chaque icône. Donc, il y a déjà, disons, une approche un peu particulière, disons, plutôt que répéter en tant que, disons, algorithme ou approche formelle. Voilà, j'avais décidé vraiment de répéter. Et là, c'est un élément qui... qu'il était très clair dans ma tête, disons. Après, oui, j'étais... je cherche d'être un peu curieux, et donc de faire cet voyage de découverte, en plus. Et donc, j'avais décidé de chercher... avant, j'utilisais un terme, l'empreinte digitale, disons. Et voilà... Là, à la fin d'Iconica 4, je me suis dit, bon, alors, s'il faut parler d'un point digital, il faut commencer à réfléchir un peu sur le concept de matière. Parce que je ne vais pas tomber sur le malentendu que moi, je suis la matière que j'utilise. Mm-hmm. Disons, cette lien direct entre disons, les positions esthétiques qui peuvent être d'un compositeur et la matière ou la technologie, dans le cas de la capa, par exemple, de l'électronique, qu'il utilise, m'a toujours un peu inquiété.
Et là, donc, concrètement, vous partez de quoi quand vous commencez une pièce, quel est le point de départ? C'est une idée, c'est un concept, un objet?
L'idée, ça ne suffit jamais. Dans mon cas, c'est un croisement de... un croisement énorme de choses, dans le sens que d'abord et à la fin, il y a le son. Moi, je fais de la musique qui a besoin d'être testée vraiment dans une dynamique de son. Donc, et après, il y a le concept, il y a la vie. Vous savez, écrire une pièce, c'est une question de respiration à long terme. Donc, moi, j'arrive jamais à décliner un concept et y rester pendant, je sais pas, 10 mois ou 13 mois. Ça serait franchement impossible. Et donc, je pars d'un son, j'écoute le son, je le réécris, j'attends qu'il me parle, j'attends de chercher de copains, de voyages, je le mets en relation avec d'autres choses. Il s'agit vraiment d'une complexité dans le sens de hybridation, par exemple, de ce qui est vrai et ce qui est faux, de parcours croisés, de parcours laissés tomber. Voilà.
Mais qu'est-ce qui vous fait avancer? Est-ce que c'est l'idée d'une narration? Est-ce que c'est l'idée d'une construction par rapport à ce qui vient avant, à ce qui vient après, par rapport à, à une note, par rapport à un timbre, par rapport à un intervalle?
Évidemment, je parle des formalisations et je fais toujours de la formalisation. Après, le concept, c'est pas de la formalisation, c'est le contrôle, le concept principal. Et donc, le contrôle, ça peut arriver par la formalisation, par l'intervalle, par un timbre, je sais pas. D'abord, j'ai besoin de, et dans ce sens-là, Iconica, c'était très important pour moi, de mettre à feu, disons, un son qui soit significatif, un terme vraiment existentiel, disons. Et tout part de là. Et après, par exemple, dans les Iconica, je crois que j'avais trouvé des choses, mais qu'il était un peu figé. Il s'agissait en fait des icônes qui ne bougeaient pas, qui n'avaient pas de mouvement. Et après, je me suis posé un peu la question de narrativité, par exemple, qui était un argument un peu tabou quand j'étais jeune, quand j'étudiais. Il fallait jamais parler de narration, mais toujours de forme, de développement, et voilà. Et là, je suis un peu libéré de cette sensation-là, et j'ai commencé à jouer, créer mes écosystèmes, jouer avec ces personnages. Et de mettre un rapport, et moi, me mettre en rapport avec ces personnages-là.
Il y a une série de pièces ensuite qui s'intitule Almost. Almost, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée de... Parce que le presque, on voit bien ce que ça veut dire dans la philosophie française, par exemple, mais est-ce que chez vous, ça signifie ça aussi? Ou est-ce que c'est une tentative? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est un exercice?
Ah non, il ne s'agit jamais de quand je mets la double barre, il ne s'agit jamais de essais. Oh, bien, tous ils ont des essais parce qu'il y a un peu de recherche, disons, on a l'habitude de dire comme ça. Non, almost, c'est un type de situation tensif, disons, que j'avais beaucoup à corps, que je cherchais de garder en termes distribution de l'énergie dans les pièces. Et en évitant oui. de déclarer la matière. Donc il y a cette
le refus d'une affirmation
voilà
totalisante.
Absolument, oui, absolument, oui. Et en utilisant de la matière qui était en plus loin de mes appétits, de mes tendances, disons, on pourrait dire génétiques, par exemple, plutôt orienté vers la recherche timbrique, vous voyez. Et donc, dans le cycle Almost, j'ai commencé vraiment à m'éloigner de l'utilisation, par exemple, de toy instrument, des instruments un peu bizarres que j'utilisais. Et c'était une sorte de régime. Voilà, on peut dire comme ça. C'était une sorte de régime. Il ne s'agit pas d'essai, mais...
Avec la confrontation aussi, avec une formule très ancienne et très connotée qui est l'Équateur à cordes, dans laquelle vous vous situez historiquement.
Non. Bah, non et oui, mais là, c'est... oui, bah, faut parler d'histoire de la musique, c'est pas le cas, France. C'est pas le cas. Oui, le quatuor à cordes, parce que le quatuor à cordes m'imposait. Il avait des contraintes dans ma tête qui vraiment me poussaient dans la direction un peu de renonciation, d'un certain type de recherche, qu'il était plutôt lié à la matière. Et donc, par exemple, ce qui reste, on pourrait dire, d'archétypal dans Almost Pure, c'est qu'en termes techniques, si on peut dire deux choses, il s'agit de deux éléments. D'un côté, il y a une sorte de tablature, bien qu'il s'agit, il y a plein de notes, disons, hein, et il y a de l'harmonie, mais qui vient vraiment de la tablature, de la dynamique de la tablature Renaissance. Et l'autre côté technique, c'est vraiment le contrôle extrême de l'archet dans les notes longues. Vous voyez. Et donc, seulement, j'ai cherché de m'en servir seulement de ces deux dynamiques.
Un extrait de Almost Pure pour Quatuor Accord de Marco Momi par les musiciens de l'ensemble MDI que nous avons d'ailleurs reçu cette année dans le cadre du festival Présence à Radio France qui était consacré à la scène italienne. Marco Momi, on vient d'entendre ici un extrait de cette pièce pour Quatuor Accord dans la même série, aussi une pièce pour flûte seule que vous avez destinée à un interprète qu'on a d'ailleurs entendu très récemment dans cette émission et dans le cadre du festival Manifeste dans des pièces de Salvatore Cherino. Il s'agit de Matteo Cesari. C'est un musicien virtuose, mais j'imagine que ce n'est pas seulement les virtuosités qui vous intéressent.
Ah non, pas du tout. En fait, Matteo d'abord, il est vraiment, franchement formidable. Mais c'est vrai que la virtuosité, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, c'est une chose que avec laquelle disons j'aime bien les interprètes qui ont un rapport avec la virtuosité, disons. Et alors à l'époque je me rappelle que Matteo m'avait demandé cette pièce là et je connaissais Matteo depuis longtemps, on était en train de grandir ensemble, on peut dire comme ça. Et alors j'ai décidé d'écrire en fait cette pièce en esprit pour lui, pour lui donner un clé de virtuosité que pour être un exprès écrit pour lui, pour lui faire comprendre qu'il pouvait imaginer un flûte un peu particulier. Dans ce sens-là, il s'agit des contraintes un peu diaboliques sur le staccato, par exemple, et sur le contrôle rythmique extrême. Et donc sur la... J'imaginais une flûte un peu plus juste, exacte, nette, que par rapport aux flûtes que je venais d'entendre quand j'étais jeune, élève de composition, ça veut dire une flûte un peu fluide, disons. Et alors, j'avais imaginé pour Matteo cette dimension vraiment, nette, acide, pure.
Et ça suppose des modes de jeu que vous avez inventés, que vous avez travaillé avec l'interprète, ou des choses qui existaient déjà mais que vous avez systématisées dans votre écriture ?
Je ne m'ai pas posé du tout la question. Peut-être j'ai ajouté des choses, oui, mais ça fait partie toujours du cycle Almost. Donc, le rapport avec la matière, ce n'était pas franchement la chose qui m'intéressait plus. Non, en plus, il y a des gammes, il y a énormément de gammes. C'est une chose très rare dans mes pièces, mais là, il y a une exception. Oui, il y a des modes de jeu un peu particuliers, en tout cas.
Ça s'appelle vanishing, oui. Ce qui veut dire qui disparaît, qui s'évanouit.
Exactement.
Oui. L'évanouissement, c'est quelque chose que vous recherchez dans cette musique?
C'est une chose qui m'a toujours intéressé. Moi, j'adore quand les compositeurs, ils s'éperdent.
Ça suppose aussi une place du silence particulière?
Ça pose une place du silence, mais ça pose une conquête du silence plutôt. C'est ça la question. C'est que il faut garder un niveau en tant qu'interprète de tension particulière pour arriver au rien et être capable d'avoir le silence qu'il est en absence, qui n'est pas quelque chose qui nous donne du confort. Et en plus, cette vanishing, disons, cette getting lost, on pourrait dire en anglais.
Cette perte, oui.
Voilà, cette perte est une chose, c'est la chose que j'ai cherché de faire là, c'est une chose que je crois, ça peut être très... Ça nécessite d'un niveau de justesse. Ça peut sembler un paradoxe, mais... Plus on est près de la perte, plus décrire et toucher le sens de la perte, il faut, disons, être net et détaché. Et là, c'est ce que j'ai cherché à faire dans cette pièce pour Matteo.
Almost Vanishing pour flûte seule de Marco Mommi et le flûtiste Matteo Cesari. Marco Mommi, on va revenir un petit peu sur le concert de la semaine prochaine, le 27 juin au Théâtre des Bouffes du Nord, sous l'intitulé de Nocturne avec Gaspard de la Nuit et le Quatuor de Ravel, de la Nuit de Chiarino, et puis une pièce en création de vous-même, ça s'appelle Unrisen. Unrisen, on pourrait traduire par... non élevé ou désélevé, c'est pas très joli en français, mais qu'est-ce que ça signifie exactement, cette non-élévation?
Il a une sorte de double signification, dans le sens que, dans un côté, bah, il faut dire que l'électronique est un peu particulière, parce qu'il s'agit d'une pièce pour smart instrument, donc cette électronique qui les diffuse.
Qui vient des instruments.
Voilà, exactement. Qui vient des instruments à travers l'utilisation des transducteurs.
Comme on a entendu ce soir dans le concert avec la pièce d'Aureliano Cataneo.
Exactement, ouais. Exactement.
Là, ça sera piano et quatuor.
Quatuor à cordes. Exactement. Il s'agit du même parcours de recherche.
Donc le quatuor a des capteurs, lui aussi, sur les instruments.
Pas de capteurs, il s'agit de transducteurs. Donc, ils vont injecter du son, en fait. Ils vont transformer, disons, les ondes sonores avec des vibrations mécaniques qui vont être retransmises dans le caisse des instruments. Et donc, les instruments deviennent les haut-parleurs. C'est ça, le concept. Et donc, il avait cette image de son qui n'était pas capable de devenir la vraie électronique, disons, over-électronique. C'est pas le cas de dire over-électronique, mais... avec l'électronique en général, j'ai ou toujours l'impression que... de travailler avec quelque chose de divine, parce que en fait dès qu'on écoute un son qui vient par un haut-parleur, moi j'ai l'impression qu'il...
C'est le Deus Ex Machina, c'est la voix divine.
Exactement. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme qui peut contrôler cette voix-là. Dans ce sens-là, il n'y a rien de divine. Il y a le son qui reste d'un instrument, qui vibre aussi, parce que le quatuor qui est en train de jouer la pièce, il sera en même temps en train de jouer, en train d'écouter l'électronique qui va sortir de l'instrument, et les instruments, ils sont en train de vibrer, parce que l'électronique va causer des vibrations. Donc il y a aussi un rapport... très lié au corps de cet instrument, il y a un rapport, je pourrais dire, affectif aussi, parce qu'on peut effectivement entendre en termes de vibration l'électronique.
Ça veut dire que vous avez travaillé vous-même sur des instruments que vous avez travaillé sur des instruments que vous avez, j'imagine, peut-être un quatuor à cordes chez vous, vous avez travaillé dessus
ou... Ah ouais, dès que j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, je me suis rendu compte que c'était une électronique énormément particulière, qui n'était pas seulement la... Il ne faut pas créer un malentendu, il ne s'agit pas seulement de diffuser l'électronique dans les instruments.
Oui,
parce que ça
sûr.
Va causer...
C'est pas un haut-parleur qu'on met
dans
l'instrument.
C'est pas un haut-parleur. Donc, il y a des contraintes et des pécularités énormes sur le rayonnement, et surtout. Et donc, oui, j'ai acheté un quatuor chez moi.
Pas des Stradivarius, ça, c'est le nom du label. Hein.
Évidemment. Ouais. Évidemment, non. On a la chance aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir... On peut aborder, disons, ce genre de... des achats.
Avec des instruments d'études, oui.
Voilà, exactement.
Alors, vous avez travaillé aussi avec Serge Lemouton, lui, c'est un réalisateur informatique musicale, RIM, comme on dit, à l'IRCAM. Vous aviez déjà travaillé avec Serge Lemouton, c'est votre première collaboration avec lui?
Non, et c'est ma première collaboration avec lui, ma première collaboration en général avec un RIM.
Sinon, vous faisiez tout vous-même.
Oui, exactement.
Alors, quel est le rôle du RIM? Vous avez l'habitude de travailler tout seul.
Oui, bah, ça dépend, parce que le rôle du RIM, ça dépend, dans le sens que ça dépend du compositeur. Par exemple, Serge, j'ai eu énormément de besoin de Serge parce qu'il était toujours là. Et donc, c'est toujours très important, surtout par rapport à ces projets qu'ils ont un peu de recherche, on pourrait dire, dans le sens que il y a plusieurs points d'interrogation qu'on a rencontré. Et donc, si, par exemple, par rapport au son, à la création de son, moi, j'aime bien gérer presque tout seul ces parties-là, parce que moi, tous les sons que j'utilise, j'ai besoin vraiment d'un rapport affectif avec le son. C'est une chose qui dépasse l'écriture. C'est une chose vraiment oui, je me répète, affectif. Mais à part de ça, c'est le contrôle et le mot et l'expérience qui est incroyable. Et en plus, tout l'équipement, parce que c'est pas facile. Toute la recherche où, par exemple, il faut placer les tenses du toit, c'était pas une chose si évidente. Et avec Serge, c'était simplement magnifique.
Donc ce sera le 27 juin à 20h30 au Théâtre des Bouffes du Nord avec le Cotoir Zaïd et la pianiste Mariangela Vacatello. Et puis on va se quitter, Marco Momi, avec un document que vous nous avez apporté ce soir. C'est une pièce de la série Almost Nowhere pour saxophone, percussion, guitare électrique et piano. Et c'est un ensemble israélien, l'ensemble Nickel, qu'on avait déjà diffusé dans cette émission, notamment avec une pièce, avec un concert organisé avec Philippe Hurel, je me souviens, où vous étiez d'ailleurs partie prenante. L'ensemble Nickel, c'est des musiciens que vous connaissez bien, vous travaillez avec eux depuis quelques années.
Hein. Oui, depuis quelques années, ils sont super. Ils appellent Ensemble Nickel, mais en réalité, il s'agit d'un quatuor, piano, saxophone, guitare électrique et percussion. Et ils sont bizarres parce qu'ils font de la vraie musique de chambre, mais ils ont une âme, disons, rock très particulière.
Et dans la façon de travailler.
Dans la façon de travailler, ils travaillent énormément. Parce qu'en effet, la perfection, elle existe aussi dans le monde du rock, en fait. On pourrait dire surtout. Et bon, à mon avis, ils ont un des meilleurs ensembles au monde dans ces moments-là. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. En plus, ils sont capables d'être sélectifs avec le compositeur et de faire un vrai travail, un vrai parcours de connaissances.
Alors on les suivra et on attend leur prochain passage ici en France. L'ensemble de Nickel, on les écoute dans Almost Nowhere de Marco Momi. Almost Nowhere de Marco Mommi pour saxophone, percussion, guitare électrique et piano. C'était l'ensemble Nickel, un document que vous nous avez apporté. Marco Mommi, merci pour ce document.
Merci.
Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle le concert qui aura lieu lundi prochain, le 27 juin. C'est au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris à 20h30, où sera notamment créée une nouvelle pièce de vous pour Quintet. C'est toujours dans le cadre du festival Manifeste. Et la semaine prochaine, nous serons ici pour diffuser un autre concert enregistré dans le même cadre, il y a quelques jours, le 16 juin dernier, au Centre Pompidou à Paris, avec l'ensemble Linéa, qui donnait une création de Emanuele Palumbo, une pièce de Rebecca Sanders, et puis aussi une création de Philippe Manouri. Et pour la dernière émission de la saison, lundi prochain, j'aurai le plaisir de recevoir ensuite, dans la partie magazine, le compositeur Philippe Leroux, qui est aussi à l'affiche de Manifeste. Merci à Marion Guillemet qui nous a aidé à préparer cette émission, à Marie Grou qui l'a réalisée comme chaque semaine. Et ce soir, au studio 143, nous étions en compagnie de Mathieu Tourin, Emmanuel Rose et Victor Buton.